Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Sa voiture devant la maison de la mère de Nathalie. Qui lui a dit, j'attends pour voir si tu peux rentrer. Elle lui dit, te fais pas de soucis. Elle l'embrasse. Elle lui dit, merci pour toi. J'ai été idiote. Mais j'ai eu tellement peur de te perdre. Puis ce jeune qui ressemblait tellement à Serge, j'ai paniqué. Mais je ne voulais pas aller chez toi pour te déranger. Pardonne-moi. Elle lui dit, tu n'as rien à pardonner. Il l'embrasse. Elle l'embrasse. Elle sort de voiture. Elle va ouvrir le portail de la propriété. Il attend un instant dans la voiture. Et s'est éloigné. Sonne à la porte de la maison. La porte s'ouvre, c'est un domestique. Bonjour mademoiselle. Bonjour, ma mère est ici. Et là, elle est au salon. Bon, je vais la voir. Elle entre. La domestique a fermé la porte. Elle monte au salon. À la porte. Entrez. Elle entre et ferme la porte. Sa mère est assise près de la fenêtre dans un fauteuil comme d'habitude. Elle lui dit, te voilà déjà revenu? Tu as fait vite. Ils n'ont pas voulu de toi. Nathalie va vers elle. Elle lui dit, bonjour mère. Je suis venu mais c'est moi qui l'ai voulu. Elle lui dit, ne dis pas de bêtises. C'est eux. Ils ne t'ont pas voulu. Nathalie lui dit, c'est la preuve qu'ils ne cherchent pas à se mettre avec nous, à faire alliance avec nous et à nous prendre nos biens. Lui-même lui dit,
C'est pas ça. C'est parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Le temps n'est pas encore venu pour eux. Nathalie haut ses épaules.
Demain matin, en prenant leur petit déjeuner, la mère dit à Nathalie
« Dimanche, je vais voir ta grand-mère. Tu as quelque chose à lui dire ?»
Nathalie lui dit « Non, de toute façon, vous êtes toujours complotées toutes les deux. » Sa mère lui dit
« Comment le sais-tu ? Tu ne vas jamais la voir. »
Si j'y suis allé une ou deux fois, cela m'a suffi. J'en ai assez de ces complots de famille. Il faudra bien qu'un jour vous me disiez tout. Je suis votre fille. Sa mère ou ses épaules lui dit
« Mais tu sais tout, ma petite. »
C'est bien peu de choses. Et quand vous vous mettez en colère, vous laissez entrevoir bien des mystères. La mère ouvre ses épaules et lui dit
« Termine de prendre ton petit déjeuner, il est déjà tard, tu vas être en retard pour tes cours. »
Il se lève et sort de la salle à manger.
Le soir, à la sortie de l'université, Nathalie voit Gilbert. Il va à elle.
Bonjour.
Bonjour. Il s'embrasse sur la joue.
Elle lui demande.
Ça va mieux ? Oui. J'étais ridicule. Vous réveillez en pleine nuit comme ça ? Mais j'ai eu si peur. Je t'assure que j'ai vraiment cru voir Serge. Je marchais sur les quais de Seine, et je vois un jeune homme allongé sur le ventre. J'ai cru qu'il était malade. Je me penche, le touche pour voir s'il n'était pas mort ou très malade. Il se retourne et je vois son visage. Serge, tout craché. Bien sûr, avec la tête d'un drogué. Gilbert lui dit, peut-être un sosie, n'y pense plus. Et avec ta mère, ça a été ? Elle lui dit, t'es comme d'habitude, et continue à te voir comme une personne qui apporte le malheur et veut la déposséder. Je me demande bien de quoi d'ailleurs, puisque nous n'avons pas grand-chose, ou si peu. Gilbert lui dit, elle doit être jalouse de moi, c'est un peu normal. Je vais lui prendre sa fille, pour ainsi dire. Dis-lui qu'elle ne se fasse pas du souci. Je n'ai rien contre les belles-mères et que nous nous occupons d'elle bien comme il faut. Elle lui dit merci. Et lui dit mais il faudra tout de même pas qu'elle soit trop trempée. Allez, allons boire quelque chose. Je sais pas ce que j'ai, mais j'ai toujours soif en ce moment. Et ils vont dans le café brasserie qui est près de l'université. Il y a, comme d'habitude, beaucoup de monde. Le soir, en rentrant chez ses parents, Gilbert va voir sa mère qui est dans sa chambre. Elle se repose en fin d'après-midi.
Il frappe à la porte. Il est entré. Bonjour, mère. Bonjour. Il va vers elle. Elle s'est mise un déshabillé beige en soie de Chine.
Mère, j'ai trouvé qu'hier au soir, vous êtes comportée d'une façon très désagréable vis-à-vis de cette pauvre Nathalie.
Sa mère lui dit, et elle, venir comme ça, à cette heure.
Réveiller tout le monde.
Et lui dit,
elle ne l'a pas fait exprès, elle avait des ennuis.
Son premier réflexe a été de nous demander de l'aide chez nous. Je trouve très bien de sa part qu'elle ait eu ce réflexe d'être chez nous. Et j'en suis fier et heureux.
La mère lui demande, heureux de quoi? Qu'elle t'ait réveillé?
Non, mère. Qu'elle ait pensé à nous, cela prouve qu'elle nous fait confiance et qu'elle nous aime.
J'allonge ses épaules et lui dit, cela prouve plutôt que c'est une petite intrigante qui cherche à entrer dans notre famille et qui elle a fait exprès de s'apprêter chez nous pour avoir le prétexte de se faire inviter et définitivement installer chez nous.
Gilbert lui dit,
vous ne la connaissez pas. Si vous connaissiez mieux, vous ne parlerez pas comme ça. Tu es aveuglé, tu ne vois rien.
Et vous, vous avez trop d'imagination.
À tout à l'heure, mère.
Et il la quitte.
Les jours passent. Dimanche matin, homme français est parti voir sa mère qui est dans une maison de retraite en Bourgogne. Elle y est allée en train. Un quart pour aller jusqu'à la maison.
Allez-y, madame, je préfère l'autre.
Le car l'a arrêté devant l'entrée de la maison de campagne. La maison de retraite, je veux dire.
Elle est arrivée vers 14h à la maison. Vous y êtes déjà allé avec Nathalie et Serge. Elle va sonner au portail.
Une voix qui a l'interphone.
Oui. Je suis Madame Poncet. Je viens voir ma mère. Pierre, entrez.
Il décrit de la porte du portail. Elle entre.
D'un grand parc, au fond du parc, une vieille maison familiale. Le parc est très boisé, de vieux et gros arbres. Il y a des hommes, des femmes qui vont, qui viennent, ou qui sont assis, seuls ou avec des personnes. On voit aussi des hommes et des femmes en blouse blanche aller venir. Il y a des bancs en pierre, de gros arbres. On entend le bruit des oiseaux. Elle arrive au perron, va vers l'entrée de la maison, qui a une porte-fenêtre, double porte. Elle est entrée dans le hall. Blanc, clair, carreaux noirs et blancs, escalier de pierre, des portes sur le côté. Une femme, en blouse blanche, l'air revêche, vient vers elle. Elle a les cheveux gris, peignés stricts en chignon, des lunettes métal, grandes, minces. Elle lui dit,
Madame, je suis Madame Poncet, la fille de Éléonore Poncet. Oui, votre mère est dans sa chambre. Elle n'a pas voulu sortir aujourd'hui. J'ai tout fait pour qu'elle sorte, mais elle n'a pas voulu. Elle a un sacré caractère, votre mère. Je m'y connais, moi. Moi qui ai été infirmière dans une maison de retraite pour toi. Le premier jour que j'ai travaillé là-bas est arrivé un vieux dégoûtant. Je veux dire, sexuellement. Eh bien, au bout d'une demi-heure, on l'a maté. Ah, à cette époque-là, on savait s'occuper des vieux. On la regarde bien, lui dit. Des personnes âgées. Je vais dans sa chambre. Merci. Et elle laisse cette espèce de vieille folle monter à l'étage. Elle se dit qu'elle devrait aller voir sa mère un peu plus souvent. Parce que si le personnel est comme cette folle, la pauvre mère. Arrivée au deuxième étage, elle se met au couloir tout blanc.
frappe à une porte.
Entrez.
Elle entre. C'est la chambre de sa mère.
Bonjour maman.
La mère est dans un fauteuil Louis XV. La chambre est meublée Louis XV, meuble de sa mère. La pièce est grande, vaste, avec une belle fenêtre. Elle s'approche de sa mère, qui est en robe noire, les cheveux gris, mince, très élégante, dans son maintien.
Bonjour ma fille.
Bonjour mère.
Elle s'embrasse toutes les deux.
Assieds-toi.
Elle lui montre une chaise à côté d'elle. Oh, va s'asseoir.
Que se passe-t-il?
Anne lui dit, je venais te voir pour voir si tu allais bien.
Comme tu vois, ça peut aller. Je deviens gaillate. Je passe mon temps à revivre ma vie. Je revois des scènes, comme celle où j'avais invité pour le thé ce si gentil jeune homme. Tu te souviens de lui?
Anne lui dit, oui, mère. Mais il ne faut pas le dire. Tu sais que c'est interdit.
Oui, je le sais, hélas.
Sa fille lui dit, mère.
Nathalie continue toujours à voir ce Gilbert. Elle a même fugué pour le voir. Je ne sais plus quoi faire.
La mère lui dit,
je crains que ce soit inévitable. Hélas. Ils sont trop forts. Ils sont de partout. Même ici. Tu as vu cette vieille, cette horrible infirmière? Oui, mais... pourquoi veulent-ils tellement faire cette union? Pour nous empêcher de nuire. Une fois unis à eux, par le sang, nous légitimons ce qu'ils font. Et veut l'être, et nous devenons leurs prisonnières. Que faut-il faire, mère? Il faut fuir en cachette de tout et changer de vie, de personne, que personne ne nous reconnaisse. C'est vital pour nous. Et pour le monde, car ils vont mettre en esclavage le monde, après peut-être à faire leurs expériences in nature, comme ils ont failli le faire il y a 20 ans. Par leur faute, la planète a failli exploser. Ce sont tous ces fous d'ingénieurs. Et Gilbert, ils veulent en faire leur symbole vivant. Lui aussi, à cause de ça, est dangereux. Il faut plus le voir. Tu m'entends? Et disparaître. La fille lui dit, bien, mère. Et Léonore lui dit, fais vite. Elle ne dit rien à ta fille. Elle risquerait de tout empêcher. Jusqu'à la fin de mes jours, j'aurai à me battre contre eux. Anne demande, ça a commencé. Comment cette histoire?
Elle lui répond, comment le savoir? Et la mère et la fille continuent de parler pendant 2 heures. Puis, elles ont pris le thé ensemble. Elle Elle quitte sa mère. Elle s'embrasse.
Je reviendrai et te mettrai au courant. T'as besoin de quelque chose?
Non, merci.
Ma fille lui dit.
J'ai parlé à la directrice au sujet de cette femme.
Et elle quitte la pièce.
Arrivée au rez-de-chaussée, elle va frapper à la porte du bureau de la directrice.
Entrez !
Elle entre. Grande pièce, claire, un bureau, genre demi-hôpital, demi-école libre. Une femme grande, mince, cheveux châtains, tailleur gris, dans les 50 ans, agréable, elle est assise à son bureau. Elle lui demande,
vous désirez?
Homme va vers elle.
Bonjour madame, j'étais accueillie tout à l'heure par une de vos nouvelles infirmières, assez sévère, même très dure, qui venait d'une maison de retraite Pontoise. Je souhaiterais que cette personne ne s'occupe pas de ma mère.
La directrice lui dit, cette personne est une très grande professionnelle.
Et depuis qu'elle est là, tout va à merveille.
La fille lui dit.
Oui, peut-être bien, mais elle est trop dure pour ma mère.
Bien.
Elle ne s'occupe pas plus de votre mère, qui elle est dure vis-à-vis de nous. Vous n'avez rien d'autre à nous dire?
Non, madame. Et Anne quitte le bureau.
Elle se dit, vieille garce, tu vas voir, je vais changer ma mère de maison de retraite.
De la maison.
Tout semble rentrer dans l'ordre.
Eric zoome toujours dans les caves. Il est toujours soit à la recherche de la blanche ou d'argent. Pour s'en procurer, c'est le seul but de sa vie. ne pense qu'à ça. Plus rien ne compte pour lui. Même pas sa vie à lui, ni celle des autres. Il a perdu toute dignité. Et pourtant, son visage est resté intact. Au point qu'il a l'air toujours un peu ailleurs. Et qu'il a gardé un esprit pareil. Un peu enfant, naïf. Il fait de mauvaises choses comme ça, comme un enfant fait des bêtises. Il a trouvé comment il peut se faire un peu d'argent. Il suffit qu'il aille au coin d'une rue et qu'il attende. Quelqu'un viendra le voir. Il demandera de passer un moment avec lui. Eric le mènera dans une allée. C'est sombre, sale, comme ce qu'ils vont faire. Au fond de l'allée, tu as du fric? Oui, combien? 500, donne. L'homme lui donne sa carte. Eric baisse son pantalon. D'heures plus tard, ils sortent de l'allée, pas plus difficile que ça. Bien sûr, ils risquent de se faire attaquer par un fou, un voleur ou un puritain. Mais ce sont les risques du métier, comme chaque métier. C'est devenu une routine. Ne pense même pas à ce qu'il fait. Après, il court la ville pour chercher un type qui aurait de la drogue. Maintenant, il se méfie. Il la goûte. Ouvre le paquet et goûte avant de payer. La plupart du temps, c'est dans les jardins publics qu'il trouve un acheteur. Puis, une fois qu'il a la drogue, il va la consommer dans un endroit tranquille. une cave, un grenier. Il cherche un coin où il n'y a personne, car il faut qu'il fasse attention aux voleurs, aux gens qui demandent à participer, aux filles. Car pour avoir de la drogue, elles disent
« Avec moi, je te fais monter au 7e ciel. »
Et la plupart du temps, la poufiasse dort ou vomit. Et puis comment peut-on avoir envie d'une fille maigrie, grise, un vrai zombie, sale, qui pue et qui est moche? Elle rencontre Denis, qui lui aussi vit la même vie que lui. De lui, Denis n'a même pas baissé, parce que comme il est plus, moins bien qu'Eric, il est plus marqué par la drogue, plus maigre, plus zombie, il a moins de clients, il a des gens qui sont peu regardants et qui payent moins, ce qui fait qu'il a moins d'argent et qu'il est plus souvent en manque et que cela le rend malade. Eric, lorsqu'il est avec Denis, il fait partager ce qu'il a parce qu'il l'aime bien. Ils sont tous deux assis sur un banc au bord de la Seine. Denis lui demande « Ça va ?»«
Oui, ça va. »«
Comment tu fais ?» Eric lui dit « Je fauche par-ci, par-là, dans le métro. Je vole quelques cartes. » Il a honte de dire qu'il se prostitue. Et toi,
moi aussi.
Denis lui dit aussi, c'est chiant tout ça. Faut toujours chercher quelque chose, de l'argent ou de la drogue. Faut toujours courir. J'en ai marre. J'aimerais arrêter, mais je peux pas. Eric lui dit, oui, c'est dur. Comment faire pour s'en sortir? Vivre comme avant. C'était mieux avant. Eric lui dit, je sais pas. Savoir pourquoi il va pousser malgré lui devant un immeuble boulevard Haussmann. Il regarde la façade, reste un moment et s'en va. Cheveux châtains, 20 et 22 ans, beau, habillé d'un blouson en cuir tissu noir et d'un pantalon gris, va vers lui et lui dit « Tu veux ?»« Oui, c'est 500. » Et il le mène dans l'allée. Ils vont au fond de l'allée. Vers la porte grillagée qui mène à la corve. D'un coup, l'homme le plaque contre la porte. Et le tient bien au collet. Tu me donnes ta carte? Je te tue. Eric, surpris, l'homme le secoue fortement. Il a déchiré sa veste. Donne. Eric lui tend sa carte. L'homme la prend, la met dans sa poche et le lâche. Et il quitte l'allée. Eric le suit. Et lui dit,
t'es un vrai salaud de t'en prendre à des gens comme moi.
L'homme lui dit, chat de prison. Ils continuent à marcher ensemble.
T'aurais pu attaquer d'autres personnes que nous.
L'homme lui dit, je ne veux pas faire autrement, j'ai faim.
Tu ne me l'as pas demandé alors. Tu veux ta carte?
Non, garde-la.
L'homme s'éloigne et le laisse partir.
Maintenant, Eric n'a plus d'argent, plus de carte.
L'autre va tout lui prendre.
Eric se dit en riant,
heureusement qu'ils n'ont pas mis sur le marché les puces mis directement sur le corps de l'homme. Dans la puce, avec toutes les coordonnées, on met la puce sur l'écran à la place de la carte. Là, pour voler la personne, il faut lui couper le pouce.
Il a mal au ventre.
Même s'il trouve un client, c'est l'autre qui lui prendra son argent.
Il vaut mieux attendre qu'il aille à la banque demain matin pour se faire une autre carte.
En attendant, il faut qu'il patiente. Patience. Sans drogue, ce n'est pas facile.
Une heure après, il a réussi à s'endormir. À cause de l'épuisement et du manque de nourriture, s'est allongé sur un banc des quais et a dormi. Il rêve de bêtes, d'insectes qui veulent le dévorer. Les rats montent sur son corps. Il voit des éclairs, la lumière de toutes les couleurs dans le noir. Tout à coup, il sent qu'on le touche. Qu'on le secoue, ou qu'on le touche, il n'ose pas se réveiller. Peut-être est-ce un gant qui veut le tabasser, ou une bête qui cherche à le dévorer. Une odeur étrange, un parfum très doux, il ouvre les yeux et voit au milieu des étoiles. Découpé, penché sur lui, une femme dans les 30 ans. Grande, blonde, lisse, belle. Elle porte de la fourrure blanche sur sa tête et sur elle. Mais elle laisse voir un décolleté très beau. Et de grands yeux bleus, des gants blancs en soie. Il se demande s'il ne rêve pas.
Vous n'êtes pas bien,
lui dit la femme. Elle a parlé, ce n'est pas un rêve. Il lui dit, j'ai froid. Et je vois une belle dame. Puis, il se rendort, épuisé. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.